Alors, avant de rentrer dans le vif de ce que je voudrais dire, pourquoi en fait cette question, enfin pourquoi j'ai proposé ce titre, Gaston Bachelard et les forces imaginantes de la morale, il y a finalement deux idées qui ont présidé, si vous voulez, à cette initiative. La première, en fait, qui vient d'un poète. Un poète qui dit, pour parler de notre temps, nous avons peur dans un monde où rien n'est sûr, mais où tout est fixé. Ce poète, en fait, insiste sur l'idée que, effectivement, en tout cas, c'est comme ça que j'en voudrais en faire l'analyse, que c'est que nous sommes à la fois les contemporains d'un moment du temps, marqué par ce qu'on appelle parfois facilement et rapidement une perte des repères. Mais en même temps, le fait que cette perte des repères pour agir est associée ou articulée à la domination de ce qu'on pourrait appeler un empire de la norme. Une tentative de vouloir tout fixer en nombre, et même à Cerisy, le discours de la sécurité, si j'ai bien entendu ce qu'il disait hier soir, est venu jusqu'ici. Bref, et dire cela, au fond, nous avons peur dans un monde où rien n'est sûr, mais où tout est fixé, interroge finalement ce moment du temps dans lequel finalement la créativité des acteurs que nous sommes est parfois devenue une créativité bloquée, les acteurs devenant tout simplement ou étant réduits au rang d'agents. Ça, c'était ma première idée. Et puis la seconde idée, elle est liée à une forme, enfin, au travail plutôt d'une juriste, Mireille Delmas-Marty, hein, dans son travail sur le droit des droits de l'homme, et qui s'interroge, hein, comment accompagner juridiquement une mondialisation telle qu'elle soit au service effectivement d'une république qui porte le souci de l'universel sans être réduit, cet universel, à une uniformisation planétaire. Et donc, comment penser l'universel dans le langage de la pluralité? Et pour pouvoir rendre compte de cela, elle convoque, hein, elle le développe pas complètement, mais elle convoque la figure de Bachelard, hein, sous la rubrique de ce qu'elle appelle, elle, donc les forces imaginantes du droit. Et donc c'est à partir de ces deux idées, si vous voulez, d'un côté le constat d'une forme de créativité bloquée des acteurs dans le monde de ce temps, et à la fois l'invocation de ces forces imaginantes du droit, pour insister au fond sur le fait que le droit, c'est certes le souci rationnel de la cohérence au sens positif, voire positiviste du terme, mais c'est aussi celui d'inventivité, en fait, de l'interprétation. Eh bien, c'est ces deux idées que je voudrais, en fait, relier ensemble en me demandant, eh bien, pourquoi et comment, au fond, peut-être Bachelard pourrait nous aider à y voir plus clair. Bref, je disais alors, proposer une lecture, sinon hérétique, en tous les cas peut-être imprévue, de Bachelard, mais j'espère féconde, pour éclairer ces enjeux. Donc, si vous voulez, j'en viens à ce que j'ai écrit maintenant, pour être dans les temps, en proposant, si vous voulez, de placer ma communication sous la rubrique ou sous l'idée, en fait, de force imaginante de la morale, je suis conscient d'enrôler Bachelard sur des terres, hein, ou dans des enjeux qui ne sont pas a priori immédiatement les siens. Et donc, il y a donc là un double défi. Ce double défi, il est finalement celui qui consisterait à proposer un portrait de Bachelard en moraliste. Double défi alors. Premier défi, celui-ci, à tenir et maintenir qu'il convient de recevoir philosophiquement les leçons de la philosophie de Bachelard dans la double dimension de l'épistémologie et de la poétique. Pour le dire de manière abrupte, mais je vais le développer après, la poétique bachelardienne n'est pas que littérature, hein, ou pâle concession à la partialité et au subjectivisme, mais bien un questionnement, en tout cas c'est de ce côté-là que je voudrais aller, un questionnement sur les schèmes dynamiques de la créativité humaine. Mais à cette première difficulté, donc qui consiste à retenir la double leçon, hein, en fait, de Bachelard, à cette première difficulté s'en ajoute une seconde, celle de vouloir faire sa place à une troisième dimension, au fond, de l'œuvre de Bachelard, à savoir la perspective engagée dans l'idée de force imaginante de la morale, celle de ce qu'on pourrait trouver dans l'expression, on pourrait utiliser l'expression de poétique de la volonté, voire donc l'idée même d'imagination morale. L'expression imagination morale n'est pas de moi, elle est, on la trouve sous la plume de Bachelard lui-même, lequel associe étroitement, même si ne développe pas ce point, moralité et créativité. Et j'y insisterai, ce qui me semble la pointe sur laquelle je voudrais concentrer l'analyse, c'est effectivement réfléchir sur les liens non pas entre moralité et normativité, mais sur les liens entre moralité et créativité. Autrement dit, c'est moins la question de la discipline qui est ici en question que celle de l'inventivité des acteurs. Et je cite Bachelard, l'imagination, dit-il, c'est donc dans l'air et les songes, l'imagination donne une promotion à l'être, l'imagination la plus efficiente, l'imagination morale, ne se sépare pas de la novation des images fondamentales. En somme, donc, s'autoriser à parler d'imagination morale ou de force imaginante de la morale en prenant appui sur la pensée de Bachelard suppose donc un processus en deux temps. Tout d'abord, se débarrasser de ce qu'on pourrait appeler une conception décorative de la poétique et ensuite, deuxième temps, préparer une poétique de la volonté. Préparer une poétique de la volonté au sens, on en reparlera peut-être dans la discussion, au sens où Paul Ricoeur, par exemple, a pu appeler de ses voeux cette poétique de la volonté, à laquelle il n'a pas d'ailleurs donné vraiment de suite, même si elle est en filigrane en permanence dans son travail, mais où Bachelard, lui, au contraire, lui donne une forme de, enfin une configuration, puisqu'il écrit, on le sait, ses deux ouvrages sur les rêveries de la volonté. Donc, processus en deux temps, il est donc question ici de concevoir qu'imaginer n'est pas le contraire de vouloir. Imaginer n'est pas le contraire de vouloir, comme on peut ou peut y inviter la pensée ordinaire, dans l'idée, au fond, que l'imagination serait le refuge de la belle âme ou le déni de réalité, mais que, au contraire, il pourrait être possible d'imaginer plus pour vouloir mieux. Il faudrait, je cite encore Bachelard, toujours dans l'air et les songes, il faut, je cite, que la volonté imagine trop pour réaliser assez. Bon. Notre hypothèse est donc que l'imagination morale, et plus largement la créativité pratique, soutient, il s'agit de soutenir l'idée, si vous voulez, que nos visées morales sont portées par des visions, qui sont autant d'appels à être, autant d'augmentation iconique de soi, autant d'incisive présence au présent. Donc nous ne sommes pas ici éloignés de l'idée que l'on pourrait formuler en langage kantien d'un schématisme pratique attentif à tous ces schèmes médiateurs de l'affectivité et de la rationalité mobilisés en nous pour agir. Je cite encore Bachelard, « Seule l'imagination dynamique peut nous donner d'adéquates images du vouloir. » Donc dans cet esprit, la moralité ne serait donc pas d'abord ce qui viendrait, si je puis dire, nous rétrécir en nous installant dans le carcan normatif de la prescription ou de l'interdiction, la moralité serait d'abord ce qui viendrait authentifier la force de vie qui reconnaît la vie en nous. Elle serait ce qui viendrait nous augmenter en mettant le sujet en lien fort avec sa propre créativité pratique. Ainsi comprise, donc la moralité ne serait pas diminution de soi, mais augmentation et intensification de soi. On est alors confronté à une question. Pour penser et vivre la moralité, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce de définir des règles qui disciplinent une existence, voire l'enchâssent en des principes? Ou est-ce de tourner une existence vers son noyau de créativité, l'ouvrant à l'exploration de la création des possibles? Et peut-être que le plus difficile, en tout cas c'est ce que je voudrais suggérer, c'est cette seconde voie. Donc si nous proposons donc une telle lecture, c'est que il nous semble qu'il y a dans l'œuvre de Bachelard tout un champ de réflexion troublant, en tout cas, qui peut servir une telle cause. on connaît, et si l'on connaît, le souci qu'a eu Gaston Bachelard de maintenir ferme la séparation entre ordre scientifique et ordre poétique, on doit aussi reconnaître que demeurent nombreuses des expressions fragmentaires qui vont en direction des forces imaginantes de la morale, voire qui signalent qu'existe des empiétements d'un champ sur l'autre. Empiétement, si on pense au champ entre morale et science, ou entre morale et poésie. Bref, entre la vérité du théorème et la beauté du poème, on peut peut-être, c'est ce que je suggérerais, laisser sa place à la bonté et la créativité engagées dans la vie bonne. Cela relèverait d'une forme d'intensification du rapport à soi et de la présence au monde. Mais en même temps, soyons prudents, plus métaphysicien en ce sens qu'éthicien, Bachelard en appelle plutôt à, je cite, « une ontologie de la profondeur humaine », n'ignorant pas pourtant la différence qu'il y a effectivement entre la dimension positionnelle attachée à l'éthique et la partialité incandescente et non positionnelle de la rêverie. Alors pour honorer ce projet, donc je vous proposerai une réflexion en quatre temps. Un premier temps qui voudrait recueillir un certain nombre d'objections à mon propre projet, qu'est-ce qui pourrait en fait lui être opposé. Un deuxième temps qui portera sur l'idée de créativité générale ou théorie de la créativité générale. Troisième temps qui voudrait aller de la créativité générale vers l'idée de créativité pratique. Et puis enfin, terminer sur les liens entre éthique et éthos, au fond, comment finalement Bachelard passe d'une poétique de la rêverie à une poétique de l'espace, et d'une poétique de l'espace à une poétique de l'action. Comment on peut, avec Bachelard en tout cas, faire ce trajet. Donc j'en viens d'abord au premier temps, donc un certain nombre d'objections. Parler de force imaginante de la morale doit être effectivement tempéré par un certain nombre d'observations. Pas plus que de philosophie politique, Bachelard n'a tenu à s'engager sur le terrain d'une philosophie morale. C'est un trait massif de sa philosophie. Mais alors, comment, en ce sens, interpréter, et je reprends ici la formule de Jean Libis, comment interpréter ce silence bachelardien sur la praxis, et plus particulièrement sur la philosophie morale? Ne s'agit-il pas de le penser, ce silence? En tout cas, ne peut-on pas le penser, ce silence, moins comme une absence ou une lacune que comme la concentration sur une autre façon d'envisager le problème de l'action, bref, se situant sur un autre plan qui serait moins celui de la conscience morale que celui de la conscience transcendantale. Et là, je ne veux pas déflorer du tout ce que dira Lutz Baumann cet après-midi, mais j'imagine qu'il y aura probablement des liens ici. Moraliser, donc, avant de se formuler en précepte et en maxime, nous concentrerait sur l'épreuve centrale de notre présent au présent. Épreuve centrale qu'est, finalement, l'expérience de l'habiter. C'est cette tension éthique et éthos sur laquelle je terminerai tout à l'heure. Bref, l'idée ici serait que l'assise de toute éthique de la responsabilité se tient dans la capacité de répondre, non pas entendu cette capacité de répondre comme répondre de ses actes, la fameuse définition de l'imputabilité, mais répondre à l'appel de ce qui est là, répondre présent au présent du monde, ce qui est, je le redis encore, un autre nom pour l'habiter. Bref, est-ce que l'auteur de la poétique de l'espace ne rejoint pas en ce sens la réflexion heideggerienne sur l'éthique à partir de l'expérience de l'habiter, si l'on pense à la lettre sur l'humanisme, dans laquelle l'éthos, qui signifie ici séjour, lieu d'habitation, est interprété comme relevant d'une éthique originelle, comme une formule d'Heidegger ici, comme la région ouverte où l'homme habite. Ceci dit, deuxième observation, Bachelard maintient et a tenu à maintenir le statut équivoque et fragmentaire, au fond, des considérations qui encouragent ce qu'il nomme pourtant, dans l'air et les songes, l'imagination morale. Mais toutefois, par fragments et empiétements, l'attention que Bachelard porte à la question morale est néanmoins sensible, mais elle se fait effectivement de biais. Donc il y a des empiétements et il y a des fragments. Je commence par les empiétements. Comme épistémologue, Il combat, parce que la recherche du vrai n'est pas celle du bien, hein, la contamination de la recherche scientifique par des considérations morales, envisagées comme autant d'obstacles épistémologiques, combat qui, pour avoir lieu, n'ignore pas, pourtant, la présence de ces valorisations dans le champ de l'activité scientifique. La morale y est alors essentiellement ramenée à des considérations, disons, psychologiques, le moral. On ne peut ici que rappeler ici, par exemple, combien ce que Bachelard nomme l'obstacle de l'expérience première consiste à prendre la mesure de toutes les valorisations morales, voire politiques, qui nourrissent ou qui contaminent plutôt les ouvrages scientifiques, et notamment c'est toutes ces observations sur les dédicaces des ouvrages scientifiques du XVIIIe siècle, dédicaces morales ou politiques à l'égard du prince. Bref, Bachelard prend ses distances dans son épistémologie avec cette contamination d'activité scientifique par ses valorisations. De l'autre côté, effectivement, lecteur des poètes, attentive à une poétique, Bachelard est pur également, parce qu'au fond, la question du poétique n'est pas celle de l'éthique, ou le beau, celle du bien, les images, il les épure en leur portée expressive de la tendance répressive, pourrait-on dire, à leur régulation normative. Parfois, la morale empiète sur la poétique. Alors, et il me semble que c'est aussi comme ça qu'on peut lire alors le sens et le choix que fait Bachelard de privilégier l'expression de grandes images au terme de métaphores pour penser sa poétique, puisqu'au fond, ce choix, parler de grandes images, instaure un décalage finalement entre l'usage routinier du procédé stylistique et la force imageante d'une fulgurance poétique. Bref, ce choix sémantique qui consiste à se débarrasser d'idées de métaphore, ce choix sémantique est aussi l'occasion d'une critique du discours moral qui ne prend pas au sérieux la vie des images, pour les penser et les vivre comme des images de la vie, se contentant précisément justement d'une conception décorative et rhétorique de l'image. Bref, si l'image tonifie et tonalise une existence en la rendant sensible au jeu de sa créativité et de ce qu'il articule à la texture du monde, elle ne peut pas effectivement être pensée comme ce carcan, ce lit procuste qui voudrait la canaliser, la contrôler ou la réguler. Verticaliser n'est pas redresser, schématiser des forces d'existence par le rythme ou par l'ancrage imageant dans sa verticalité, n'est pas discipliné des conduites dans un dressage. Mais là aussi, une fois cette distance prise, ça n'interdit pas à Bachelard, par retour, d'écrire, je cite, « Tout moraliste devrait au moins poser le problème de l'expression verbale des faits moraux. » Bref, une thèse de l'imagination, je cite encore Bachelard, une thèse de l'imagination comme valeur psychique fondamentale, comme est la nôtre, dit-il, pose le problème en sens inverse. Elle se demande comment des images d'élévation préparent la dynamique d'une vie morale. Enfin, encore deux observations. Parler de force imaginante de la morale, outre donc ces empiétements que je signalais et en même temps dénoncés par Bachelard, il y a tout un ensemble de fragments, un faisceau d'indices qui, dans l'œuvre de Bachelard, peuvent encourager notre hypothèse. Outre le fait que Bachelard parle explicitement d'imagination morale, il écrit deux livres qui constituent une forme de poétique de la volonté, même si, et en même temps, il développe aussi le fait que, même si ça n'est pas le même attachement que l'on trouve entre le cogito qui pense ou qui veut, attaché à un principe et capable de détachement dans l'examen intérieur des mobiles, et le cogito qui rêve, placé au centre d'une image créatrice, bref, si nous savons que le cogito qui rêve n'est pas le même que le cogito qui veut en ce sens, est-ce que ça interdit pour autant de penser une articulation entre une phénoménologie des variations imaginatives sur des possibles, celle engagée dans les rêveries du cogito du rêveur, et l'option éthique et positionnelle du cogito agissant. Enfin, et dernière observation, Bachelard fait observer lui-même, hein, dans un chapitre consacré à Nietzsche, toujours dans L'Ère et les songes, hein, Nietzsche, l'auteur du Zarathoustra, mais aussi du Par-delà bien et mal, Bachelard observe que toutes ces remarques, je cite, hein, que toutes les remarques de la vie morale, hein, ne sont des pauvres, pauvres métaphores que pour ceux qui oublient la primauté de l'imagination dynamique. Bref, en se refusant à une conception décorative des images ou à la simple dimension rhétorique d'un intellectualisme moral, hein, qui pose la pensée abstraite avant la métaphore, est-ce que Bachelard n'invite pas à se concentrer, lorsqu'on parlera de force imaginante de la morale, moins sur la normativité que sur la créativité, moins sur la forme, hein, que sur la force? J'en viens donc maintenant à mon deuxième temps. La question donc théorie de la créativité. Si associer donc éthique et poétique ne va pas de soi, ce qui légitime cette association porte sur le statut en fait de l'idée de créativité et m'amènera donc tout à l'heure sur l'idée de créativité pratique. L'enjeu ici est de déplacer donc l'angle d'analyse pour penser l'éthique. Angle d'analyse d'ordinaire polarisé dans une tension, on le sait, c'est une tension presque scolaire, entre la question du devoir et celle de la vertu. Bref, il me semble que ce qui peut être intéressant en convoquant Bachelard, c'est effectivement de déplacer l'analyse fortement aujourd'hui thématisée et mise en tension dans l'opposition aujourd'hui entre morale et éthique. De fait, au fond, comment est construite cette tension aujourd'hui ? On a l'idée d'un côté qu'il y aurait des éthiques qu'on dit déontologiques, dont l'accent principal serait mis sur la recherche de la norme, la morale. D'autres, des éthiques arétiques, hein, qui mettraient l'accent sur la question de l'aspiration à une vie bonne. Or, la réflexion de Bachelard en ces matières, qu'il a peu explorée, je le redis, enfin, pas comme telle, hein, est précieuse parce qu'elle me semble se tenir en amont, au fond, de cette séparation entre l'empire de la norme et l'aspiration à la vie bonne. Ces propositions, en effet, Bachelard, mettent en déroute notre réflexion sur la moralité, toujours rattrapée par le souci de la normativité et bientôt de la normalité. Elle situe la réflexion sur la moralité moins du côté du prescriptif que du côté du prospectif, moins sur le pôle contraignant du déontologique que sur celui intensifiant de la créativité. Les propositions de fait de Bachelard ici sont déroutantes parce que finalement elles nous invitent à chercher le cœur de la moralité par-delà, pourrait-on dire, l'alternative entre morale déontologique, tu dois, hein, et morale théologique, la visée de la vie bonne. Elle se situerait en amont de l'opposition, donc de la norme et de la vertu, au-delà du bien et du mal, et peut-être est-ce cela, hein, le nietzschéisme de Bachelard. Hein. L'éthique, par la poétique, hein, nous reconduirait à notre condition métaphysique. Expérience de la verticalité, hein, la poétique est éthique en ce qu'elle tonalise et intensifie une existence. La poétique donc nous mènerait ainsi au nœud, hein, de notre créativité originaire et par conséquent nous concentrerait, hein, sur ce que Bachelard appelle la conscience simultanée de tous les liens. L'éthique, ainsi entendue, hein, inscrit son mouvement dans la brèche, hein, couvre la poétique qui donne de vivre une expérience originaire de disponibilité et de présence, pourrait-on dire, racinaire. Ainsi, Bachelard écrit-il, c'est donc dans l'intuition de l'instant, toute moralité est instantanée. L'impératif catégorique de la moralité n'a que faire de la durée, il va tout droit, verticalement dans le temps des formes et des personnes. Le poète est alors le guide naturel du métaphysicien qui veut comprendre toutes les puissances de liaison instantanée. Donc se tenir en amont du bien et du mal, hein, initie une singulière lecture bachelardienne de l'impératif catégorique à une triple condition. La première consiste à substituer à ce qu'on pourrait appeler une théorie de la connaissance dans les relations entre les facultés, hein, entendement et volonté en particulier, entendement, volonté, imagination, substituer à cette théorie de la connaissance une théorie de la puissance, hein, attentive à la temporalité engagée dans l'instant. cette substitution doit pouvoir prendre en compte le pouvoir augmentant de l'imagination. Si une théorie de la connaissance qui a vu son apogée au XVIIe siècle condamne l'imagination comme maîtresse d'erreurs et de faussetés, hein, d'autant plus fourbe, etc., hein, c'est qu'elle juge, hein, l'imagination à partir du critère de vérité d'un entendement qui évalue les productions de l'imagination à partir de la validité formelle et du critère intellectuel de clarté et de distinction. Or, pour parler dans les catégories de la psychologie classique, on observe qu'au couple entendement-volonté, Bachelard substitue, hein, le couple imagination-volonté. Grâce à cela, il introduit dans le champ, me semble-t-il, de la moralité une autre intelligence, hein, que celle de l'élucidation des motifs par l'activité de l'entendement ou que celle d'un contrôle des orientations par une volonté d'évaluation. L'imagination donne à la moralité une puissance d'intensification des ressources du sujet qu'elle vient conforter en ses capacités et puissance d'initiative ou de commencement. C'est ici le rôle des rêveries, des images ressources, des images matérielles, des anticipations, etc. Donc, premier élément. Deuxième manière de revisiter cette idée d'impératif catégorique. Ensuite, donc, et par voie de conséquence, il s'agit d'infléchir la compréhension ordinaire que l'on se fait de l'impératif catégorique et de la normativité pratique dans le formalisme normatif ou formalisme éthique. Et ceci en installant cet impératif dans une dialectique de la forme et de la force. Les forces imaginantes de la morale délaissent une imagination formelle pour se concentrer sur une énergétique de l'agir. Paraphrasant Bachelard, c'est une formule qu'il utilise à propos du langage dans la poétique de l'espace, et si on ose le néologisme de poétique avec un H cette fois-ci, un néologisme que j'ose depuis un petit moment, mais si on ose cette idée, et donc si je paraphrase Bachelard, on pourrait dire ici que la vie éthique entre forme et force, hein, se prolonge dans la dialectique de l'ouvert et du fermé. Hein. Par la forme de la norme, elle enferme, hein, par la force poétique, elle ouvre, elle s'ouvre. Enfin, troisième idée, cette idée d'instantanéité opère un déplacement quant à l'opposition du continu et du discontinu qui peut servir de discrimination entre morale et éthique, la morale se concentrant sur le caractère discontinu en raison de la recherche d'un critère ponctuel pour discriminer si une action est ou non morale, là où l'éthique serait marquée par la continuité, hein, dans le souci, donc c'est la question des vertus, dans le souci d'une vie bonne. C'est une autre manière de thématiser, hein, la différence entre peut-être morale close et morale ouverte, telle qu'on la trouvera déployée chez Bergson, mais là je ne suis pas spécialiste, donc je laisse la parole, en tout cas je laisse ouvert la perspective à Frédéric Worms qui parlera tout à l'heure peut-être sur ce point, je ne sais pas. Bref, l'attention à cette épreuve de l'instantanéité, hein, insiste sur une dimension d'unification intérieure donnée et engagée dans la force de l'image. Hein, si le lien est unificateur, ce que Bachelard appelle les puissances de liaison instantanée, hein, ne sont pas de l'ordre de la contrainte, hein, et donc du contrôle, hein, qui peut contenir parfois jusqu'au ressentiment, mais attention intérieure à une dimension de retentissement dans la subjectivité qui peut alors être réveillée dans ses capacités. Ça m'amène alors donc vers l'idée de donc la créativité en général, vers la question de la créativité pratique. Troisième moment. Donc de ce qui précède, on mesure donc, j'espère, les enjeux d'une prise en compte de la créativité et des puissances de l'imagination pour penser l'éthique. Dans un texte qui n'est pas de Bachelard, qui est un texte de Léopardi, dialogue de Trimande et d'Éléandre, Léopardi fait dire à Éléandre, je cite, « Si quelques livres moraux pouvaient être utiles, je pense que ce serait surtout les livres poétiques. » En prenant le mot poétique dans un sens large, c'est-à-dire les livres destinés à mettre en mouvement l'imagination, qu'ils soient en vers ou en prose. Et je continue, continue Léopardi, hein, je ne fais pas, son personnage, hein, je ne fais pas grand cas d'une poésie qui, après qu'il l'a lu et médité, ne laisse pas au lecteur un sentiment suffisamment noble pour l'empêcher pendant une demi-heure d'admettre dans son esprit une pensée vile et de commettre un acte indigne. Une demi-heure, bon, c'est pas très exigeant, mais quand même. Hein. Donc, selon notre hypothèse de lecture, hein, prendre en compte donc la créativité pratique pour penser une poétique de l'action nous réveillerait donc de tous nos dogmatismes moraux et maintiendrait vive l'attention au drame de l'instant. Et une manière, au fond, de se rendre, de maintenir vive cette attention au drame de l'instant, c'est peut-être effectivement maintenir présent au présent l'imagination du semblable, là où nous ne cessons en permanence de l'enfermer sous des formes convenues. Bref, en effet, parce que la parole poétique se situe aux frontières du connu et de l'inconnu, de l'objectif et du subjectif, du possible et du nécessaire, etc., ne demeure-t-elle pas capacité exploratoire et vibratoire en ce sens, ouvrant au déchiffrage de ce qui pourrait et devrait être dans un suspens du temps. Donc s'attacher à la créativité pratique suppose donc de prendre en considération l'action dans sa dimension de commencement, dans sa vertu d'origine. Un tel parti pris interprétatif exige un double détachement. Le premier consiste à séparer l'éthique de l'éthos, entendu cet éthos comme ensemble de bonnes mœurs, et plus généralement comme le contexte historique sur le fond duquel se déploie et s'explicite l'agir, ce que dans l'intuition de l'instant, Bachelard appelle, se souvenant peut-être ou sans doute d'Albachs, hein, des cadres sociaux hein, de la durée. Une poétique de l'action a donc en ce sens une portée concentrique qui, sans ignorer le fait que le drame de l'agir se déploie dans des manières de faire et dans des usages sociaux, eh bien, qui, sans l'ignorer, cherche le noyau éthique en amont de la chair des conduites et des mœurs qui la traduisent en actes. Notons-le, et j'y reviendrai en terminant, que c'est là une des difficultés d'ailleurs attachées hein, aux analyses de Bachelard, hein, car en se concentrant sur l'instant, dans un refus de ce qu'il appelle le temps horizontal, hein, il peut par là négliger hein, le devenir des autres, le devenir de la vie et le devenir du monde, hein, au risque hein, d'un retour sur soi solipsiste et fermé au monde, au risque, en cherchant ce qu'il appelle, hein, dans l'instant poétique, je cite, dans l'intuition de l'instant, une consolation sans espérance. Donc premier détachement. Second détachement, il porte quant à lui sur la séparation hein, de la vision du soi agissant qui s'intensifie et qui s'approfondit, séparation d'avec ce que peut être une visée éthique dans sa dimension d'option et de position axiologique qui vise à faire la part entre les différents mobiles de l'action. Bref, il s'agit de se concentrer sur la singulière présence à soi et au monde qui s'engage dans une poétique de l'agir. Ce second aspect est important car si toute une tradition de la philosophie morale a travaillé à discriminer entre mobile et motif de l'action, en vue d'expliciter ce que pourrait être un mobile pur hein, de la raison pratique, hein, la recherche d'une poétique de l'action vise, dans un par-delà bien et mal, hein, le point d'émergence où se situe la créativité de l'agent moral. Il s'agit donc de travailler à préciser en quoi la mesure prise de notre créativité pratique contribue à une augmentation du sens et de la portée de ce que vivre bien veut dire, antérieur à un vivre selon le bien. Donc dans cette perspective, l'éthique donnerait l'occasion d'une augmentation iconique de soi, du soi agissant, avant d'en profiler la figure dans un style, dans une stylistique de l'existence. Aussi donc, en parlant de poétique de l'action ou de créativité pratique, il s'agit peut-être de reprendre un problème hérité de la tradition kantienne et que l'on pourrait formuler avec Naber en étant ce problème enfin, sous l'idée d'une expérience intérieure de la liberté. Il concerne une expérience qui remonte en deçà de l'opposition, ou plutôt de l'antinomie, entre le monde des noumènes et des phénomènes. Opposition rendant difficilement compréhensible l'idée de commencement d'une action radicalement nouvelle dans le monde. En effet, la réflexion kantienne sur la responsabilité nous posait hein, devant une difficulté, nous pose devant une difficulté radicale qui est celle du problème de la causalité par liberté. Comment un événement dans le monde de l'action peut-il être dit l'avènement d'un exercice de la liberté ? d'une série causale radicalement nouvelle. Or, en termes bachelardiens, la créativité pratique rend attentive, me semble-t-il, au point d'émergence de la puissance d'initié, de la vivacité imprévisible, du créé ou du jugé. Ne prépare-t-elle pas alors, de ce fait, à l'idée d'une imagination entendue comme faculté du possible pratique ? Au sens fort, les forces imaginantes de la moralité se rendraient, nous rendraient attentives à ce que Bachelard appelle l'expérience salutaire de l'émergence, expérience libératrice de potentialité grâce à laquelle ce qui nous paraissait impossible théoriquement peut être vécu pratiquement. Pour le dire dans les mots de Vandenberg que cite Bachelard, les forces imaginantes de la morale se rendraient donc attentives aux puissances de la créativité pratique, grâce auxquelles, je cite, nous vivons continuellement une solution des problèmes qui sont sans espoir de solution pour la réflexion. Nous vivons continuellement une solution des problèmes qui sont sans espoir de solution pour la réflexion. Ayant dit cela, donc, ni le déferlement irrationnel livré à une imagination débordante et déréglée, dans le préférer rêver sa vie, plutôt que de la vivre, et c'est ici toute la distinction entre rêve et rêverie, ni anesthésie de notre activité d'ouverture des possibles dans la stérilisation d'une créativité bloquée, dans du définitif ou de la routinisation, l'imagination donc morale nous placerait, je cite Bachelard, dans la marge où précisément la fonction de l'irréel vient séduire ou inquiéter et toujours réveiller l'être endormi dans ses automatismes, ce qu'il appellera dans d'autres textes les expériences du seuil, les petits dieux du seuil. Bon. Il s'agit donc, en disant cela, de dire, et je reviens à ce que je disais en commençant en introduction, dans notre moment du temps marqué par un univers extrêmement régulé, normalisé et administré, bien, donc dans un monde envahi par la normativité, par les grilles, les normes, les protocoles, qui gagnent sur nos vies et dans leur souci de la régularité, eh bien, il s'agit donc de réveiller ces petites expériences ou ces petits dieux du seuil pour Bachelard. En se demandant comment une norme a pu émerger, comment une norme a pu trouver à se former. Bref, il est question de retrouver sous la fixité de la règle la vitalité de la question qui l'a initiée. Et j'en arrive donc à mon quatrième temps, je crois que je suis dans les temps. Bon. Donc poétique de la rêverie, poétique de l'espace et poétique de l'action. La part reconnue à la créativité pratique fait donc apparaître un niveau de signification, enfin, j'espère que je l'ai fait apparaître, un niveau de signification d'ordinaire délaissé lorsqu'on s'attache à penser l'éthique. Ce niveau de signification désigne l'étiage où peut se situer maintenant notre enquête. Le mot éthos, nous le savons, condense sur lui trois significations distinctes. L'idée de bonne mœurs, la visée de la vie bonne et le lieu du séjour ou de l'habiter. Cette troisième signification, cette troisième strate profonde, n'est ni étude des bonnes mœurs, qui peut parfois se caricaturer en étude éthologique, ni visée de la vie bonne, qui se déplie en discipline de soi, en discipline des conduites, mais elle est, cette troisième strate, orientée vers l'expérience poétique de l'habité, le monde dans lequel, je cite ici Heidegger, lequel s'éveille l'exigence d'une intimation qui le lie. L'exigence d'une intimation qui le lie. Je fais ce lien avec toutes les intuitions d'instant, enfin le texte de l'intuition d'instant de tout à l'heure, que je disais tout à l'heure. Bref, cet éveil, engagé donc dans un habité le monde, en se rendant présent à la présence de l'être là, renouvelle, ou peut renouveler, je crois, notre compréhension de l'éthique, entendue comme épreuve de l'habité, la plaçant au point de jonction entre la poétique de la rêverie et la poétique de l'espace. Deux recherches signifiantes chez Bachelard, qui le rapprochent pour une part ici de Heidegger. L'éthique ainsi entendue, donc, n'est ni une pieuse habitude, ni la scrutation scrupuleuse de la conscience, mais pensée comme inscription originaire. Elle cultive le point de connexion où émerge dans le monde extérieur la créativité pratique propre au monde intérieur que cultive la rêverie. Donc il n'est pas tant une recherche des fondements, a priori de la morale, même si on pourrait, cette grande image des fondements, la questionner précisément comme une image. C'est la question de l'utilisation du vocabulaire imagé par les moralistes. Bref, il n'est donc pas tant une recherche donc des fondements a priori de la morale que de se situer à ce point d'origine où se donne, sans que rien ne la justifie ni en épuise le sens, une puissance de créativité. Bref, ce qui est en question, donc, c'est de rechercher une vertu d'origine plutôt que les origines de la vertu. En disant cela, c'est donc dire qu'entre éthique et poétique se rejoue une nouvelle scansion attachée au concept d'imagination dans notre culture. Aux relations de l'éthique et de l'image dans la tradition platonicienne attachée au beau, image du bien, devenue avec Kant beau, symbole du bien, elle substitue ou peut substituer un nouveau problème. Parler d'activité créatrice ou productrice de l'imagination dans la poétique n'est pas assimiler éthique et esthétique et faire de l'action et de la création des équivalents, mais pointer que le cogito du rêveur nous installe à la racine de la créativité pratique. Il s'y révèle un rapprochement de l'éthique avec l'activité réfléchissante du jugement, susceptible d'épouser le singulier. Il ne s'agit donc pas pour autant d'en attendre plus qu'en peut donner une poétique de l'action. Si elle nous conduit au seuil de l'action éthique en ouvrant les possibles, en abandonnant des certitudes fixées ou des routinisations, une poétique ne tient pas seul lieu d'éthique. L'exercice de l'imagination engagé dans la rêverie n'est pas positionnel, il tolère des tensions, voire des contradictions, il approfondit des partialités, alors qu'il faut souvent prendre parti. Le passage donc de l'image rêvée ou du projet anticipé à l'action effectuée a un coût. Parmi les possibilités, il faut opter. Donc si la visée éthique se situe entre la superficialité de l'éthos qui vise la bonne socialité du convenable qui lui donne forme dans les mœurs et la profondeur de l'ancrage de l'épreuve de l'habité qui est enracinement ontologique qui lui donne force dans la fulgurance présente à l'instant, on comprend alors que la vie éthique soit animée en permanence par une grande dialectique, la dialectique de la forme et de la force. Dans la vie quotidienne, la synthèse dynamique s'oppose à la synthèse statique de la fixation. S'engage une forme de balancement entre le disciplinaire et l'originaire, entre le fixé dans la règle et l'animé dans la créativité, entre la délimitation statique de nos actions habituelles dans le clos et le flottement exploratoire de notre vitalité interne, dans l'ouvert, le s'élargir, le s'approfondir. Une poétique de l'action doit donc aller au-delà de l'éthos, au sens des bonnes mœurs ou de la fonction sociale marquée par le souci de l'étiquette. Et on pense ici à la critique par Bachelard de l'homme autoritaire, prisonnier, dit-il, des fonctions sociales. Je pense au texte de la poétique de la rêverie. Donc, parler des forces imaginantes de la morale, en prenant ses distances avec une conception décorative et par conséquent superficielle des relations entre poétique et éthique, cherche à saisir le nœud qui lie le cogito agissant et le cogito du rêveur. Il y a là en effet un divertissement superficiel possible qui peut, à la suite de la psychologie, observer combien la vie morale et la réflexion sur cette dernière se trouve travaillée par des logiques de force psychique. Divertissement superficiel, mais qui n'est pas sans intérêt, et Bachelard s'y est attaché pour une part ici. Ici, en effet, les images et la vie morale vivraient de ces forces que l'on sépare depuis Jung en anima et animus. Ainsi, Bachelard observe-t-il, je cite, donc poétique de la rêverie, « Je dois dire que croyant penser, j'ai bien souvent rêvassé sur le genre masculin ou féminin des qualités morales, le genre féminin ou masculin des qualités morales, tels l'orgueil et la vanité, le courage et la passion. Il me semblait que le masculin et le féminin, dans les mots, accentuaient les contraires, dramatisaient la vie morale. » La prudence de Bachelard, « je croyais penser, il me semblait », doit être notée car elle désigne le véritable lieu de son investigation, qui, lui, peut être fécond pour la réflexion morale. Bref, au-delà du divertissement, il y a du plus essentiel. Une poétique de la morale ne peut pas être une simple sémiologie, recensant dans la fixité d'un tableau des orientations de l'agir humain en masculin ou féminin, des positions. À titre d'exemple, pour prendre le champ du débat contemporain, le masculin du principisme, par exemple, et le féminin du care. Hein, si on pense aux éthiques du care ou aux approches genrées, ce qu'on dit genré aujourd'hui de l'éthique. Enfin, les Québécois nous apprennent à dire genré. Bref, au-delà d'une coloration superficielle, hein, il est question d'une tonalisation en profondeur de la vie pratique. Lire Bachelard incite donc à une réflexion sur la vie morale et sur la créativité pratique située en amont de l'opposition thématisée entre, je le disais, la morale et l'éthique, comme si la première était une morale en animus, la recherche du principe, de la position et du fondement, et la seconde, l'éthique, une morale en anima, l'aspiration à la vie bonne, attentive à la douceur du soin ou du prendre soin. Comme si le principe était masculin et la sollicitude visée du prendre soin féminine. Certes, on peut s'amuser et observer cette tension du masculin et du féminin dans la moralité, et il y aurait, en français du moins, alors tout un champ à ici développer, le principe et la règle, l'impératif et la maxime, le bien et la bonté, le mal et la méchanceté, le vice et la vertu, l'ange et la bête, etc. Et l'on pourrait travailler sur cette conjugation, du masculin et du féminin, qui est aussi une conjugalité, si l'on peut dire, de la vie morale, pour y mettre de la complexité et de la richesse en termes d'expérience effectivement intérieure. Comment effectivement entend-on ces mots ? Mais plus avant, ce balancement dynamique auquel sera attentif Bachelard n'est-il pas celui qui se déploie justement dans la dialectique d'une morale en animus et d'une morale en anima. N'est-il pas décisif que tout cela demeure une dialectique profonde, une dialectique irrésolue, et pour cela une tension vivante. Pour conclure, donc, en amont de ce qui interdit, de ce qui enferme, ou de ce qui régule, les forces imaginantes de la morale, on appelle finalement à une philosophie de la liberté. Le paradoxe tient à ce que d'ordinaire, nos analyses, notre appréhension et notre déploiement sur la morale ou à propos de la morale se concentrent sur le moment impératif, contraignant et catégorique, pour ne pas dire parfois disciplinaire, en vue du contrôle et de la maîtrise. Mais ceci ne peut nous faire oublier que cette dimension régulatrice, parfois punitive, n'est qu'un versant d'une vie morale pour l'essentiel ouverte à un accompagnement de la vie, pour l'aider à se déployer et à préciser l'intuition qui la fonde. Tout comme dans le champ du droit que j'évoquais en commençant, où la dimension spectaculaire du judiciaire qui sanctionne masque l'activité de la vie du juridique qui accompagne les existences dans leur déploiement, eh bien, de même, le moment moral est crucial qui dit le bien ou le mal dans ce qu'il a de ponctuel et incisif, ne doit pas faire oublier l'éthique en tant qu'aspiration de la vie en nous qui reconnaît la vie en sa vivacité. La vie éthique est dans l'intensité avant d'être dans la normalité. Il s'agit de ne pas taire, et je m'arrêterai là-dessus, la justesse, de l'ajustement à soi, en se concentrant à l'excès sur la rigidité de la règle. Je cite Bachelard, et pour lui, tout seigneur, tout honneur, pour terminer, « Dans le règne de l'imagination, l'épithète qui est le plus proche du substantif « air », c'est l'épithète libre. » Merci.